Radio Vida. Jean-Claude, physicien, 37 ans.
Pour moi, le vide n'est jamais vraiment vide. Car même là où il semble qu'il n'y ait rien, même dans les coins les plus reculés de l'espace, même au cas où on enlève tout ce qu'on peut, toutes les matières, il reste quelque chose. Quelque chose qui vibre d'une certaine manière, mais qu'on ne peut pas enlever, qui est une sorte de grumeau. Car en fait, depuis déjà à peu près 70-80 ans, on sait que même quand on enlève tout, même la lumière, eh bien il reste quelque part une sorte de halo de lumière. Et en fait, on en a même la preuve. Un physicien du nom de Casimir a démontré que si ce rien, ce halo, existait vraiment, eh bien deux plaques en métal étaient d'une certaine manière, lorsqu'elles sont vis-à-vis, attirées l'une par l'autre. Ce physicien s'appelait Casimir, et on a appelé ce phénomène l'effet Casimir. Purement théorique, on a essayé de le démontrer plusieurs fois, et c'est seulement au début du XXIe siècle qu'on a effectivement vu cet effet, qu'on l'a mesuré. L'effet Casimir, dans ce cas, a été produit non pas entre deux plaques, mais pour qu'il soit plus fort, plus intense, on l'avait fait faire entre une petite lamelle de métal et une petite lamelle rigide. La première lamelle était une sorte de ressort et a été attirée par l'autre lamelle, non pas par des effets de gravité, non pas par des effets électriques quelconques, mais par le fait que le vide qui les entourait était plus important que le vide qui les séparait. Donc, il existe une force d'interaction du fait du moindre vide. Voilà. C'est pour ça que le vide n'est jamais vraiment vide.
Donc, grâce au vide, il y a une interaction.
Oui.
Donc, on pourrait presque dire qu'il est vide de son moteur.
C'est un peu difficile parce qu'on pourrait pas. Ça serait très difficile d'utiliser. C'est un très très un moteur très très faible et qu'on peut pas contrôler, qui va dans une seule direction et qui est beaucoup moins important que même l'énergie d'une bûche de bois qui flambe, de n'importe quel de ces phénomènes. C'est simplement un résidu de force.
Donc, quand vous pensez au vide, vous pensez à quoi?
Quand?
Si vous devez imaginer les vides, les imaginer dans votre tête, vous pensez à quoi?
J'imaginais quelque chose qui vibre un petit peu, qui est comme une sorte de grumeau. Un grumeau de vibration.
Pourquoi?
Une soupe. Parce que ce qui joue, justement, pour faire ses forces dans le vide, c'est qu'il existe quand même quelque chose. C'est que le vide n'est pas vide. Donc il y a toujours quelque chose qui est là, mais qui, en moyenne, n'est pas là. Il n'existe que parce qu'il fluctue. On appelle ça d'ailleurs les fluctuations du vide.
Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous en parler mieux de ces fluctuations du vide?
Ben, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à une sorte de soupe. Si vous prenez une soupe qui est simplement froide, elle est toute plate, imaginez que ça soit le niveau qu'on appelle le zéro. Eh ben, si par ailleurs, à un autre moment, je la fais chauffer et qu'elle bout, cette soupe, il va y avoir donc des changements de sa surface, parce qu'il y a des bulles qui éclatent, etc. vous ne pourrez plus définir qu'une moyenne du zéro. Il y a des fluctuations autour de ce relief, autour de ce plan, qui sont justement les reliefs. Et bien c'est ça, comme ça que je me représente moi ces fluctuations du vide. C'est-à-dire que la moyenne est nulle, donc il n'y a rien. Mais il y a comme quelque chose qui sort du rien de temps en temps et qui replonge aussitôt dans le rien. Et c'est ces espèces de petites fluctuations, de petites choses qui apparaissent pour redisparaître aussitôt, qui peuplent le vide. Et dans les faits dont j'ai parlé tout à l'heure, les faits Casimir, il est basé sur une chose toute simple. C'est que la taille des reliefs de ce vide est multiple. Ça peut être des petits reliefs, des gros reliefs, ça peut être des grosses éclaboussures, des petites éclaboussures. Seulement ça, l'existence et le nombre de gros reliefs ou de petits reliefs dépend de la distance entre les plaques de métal de l'effet Casimir. Plus c'est petit, plus la distance est petite. Et plus vous trouverez des tailles qui sont toujours plus ou moins les mêmes. En gros, vous aurez plutôt une plus faible variation de taille. Alors qu'en dehors des deux plaques, ces fluctuations sont plus nombreuses. Et c'est pour ça que les deux plaques s'attirent, parce que celles qui sont plus nombreuses de part et d'autre des plaques poussent les deux plaques l'une vers l'autre, parce que celles qui sont entre les deux ne sont pas suffisamment intenses pour contrer cette force.
Et qu'est-ce que c'est pour vous le vide dans votre vie ?
Ça n'a rien à voir. C'est le vrai vide. Le vide de tout le monde. Le vide quand il n'y a rien. Il n'y a pas de fluctuation.
Et vous ressentez quand ?
Je le ressens. Même quand je vois des choses physiques, par exemple le vide au sens la hauteur, je ressens le vide. Puis il y a le vide au sens vague à l'âme.
Est-ce que vous avez des méthodes contre les vides ?
Oui. Et l'oubli du vide. C'est-à-dire, dès qu'il y a du vide, le combler. L'empêcher d'exister. Par l'activité.
D'accord, mais aussi, en le comblant, le vide existe toujours. Il est toujours là, on est juste en train de le remplir.
Oui, mais dès le moment où on remplit le vide, il n'est plus vide. Le vide, c'est l'absence. C'est l'inexistant. Donc en faisant exister quelque chose, on casse le vide.
Donc vous trouvez qu'à travers l'action, on peut arriver à casser cette vide ?
Oui, c'est à travers vide. Toute forme de choses qui existent.
Et vous ne pensez pas que ça, c'est une sorte de fuite ?
Fuite devant le vide ? Oui, mais ce sont deux choses qui s'opposent. Donc s'il n'y a pas le vide, il y a le plein. S'il n'y a pas le vide, il y a quelque chose. Donc à partir du moment où je crée quelque chose, on peut dire que c'est une fuite. Mais en même temps, on peut dire aussi que c'est simplement la négation de ce qu'on ne veut pas. Donc c'est une imposition. L'imposition, c'est le contraire de la fuite. Donc on voit bien que c'est des concepts qui ne collent pas.
Est-ce que vous pensez de bien cohabiter avec les vides dans votre vie ?
Je trouve que il demande des efforts. Et j'ai pas toujours eu cette sensation. Je pense que quand on est enfant, on a, en tout cas pour beaucoup d'enfants, le vide, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment.
C'est quand la première fois que vous avez eu l'impression de ressentir le vide ?
Je crois que c'est par rapport à la mort, Mais je crois que j'ai eu des premières sensations qui sont en fait liées à la mort, mais que je n'ai pas prises aussi violemment. Mais c'est mes premiers souvenirs, je pense, à la fin de l'enfance. Mais le concept qui m'a, disons, l'intégration, la sensation la plus forte de ce vide-là qu'est la mort, je l'ai eu vers 17 ans.
17 ans.
Oui. Parce que j'ai réalisé que c'était pas une abstraction, qu'un jour il y aurait du vide, un vide complet. Et j'ai eu cette idée que un jour ou l'autre, quand je serai mort, eh bien, ou quand je serai au seuil de la mort, eh bien, je serai dans un présent à ce moment-là, et que ce présent va un jour exister. Et que le temps passera. Et donc, en gros, que progressivement, je me rapproche de ce moment-là. Et donc, j'ai compris ça quasiment en un éclair à 17 ans. Ça m'a un peu perturbé. Et j'y repense souvent, comme justement un moment tellement net que je peux facilement comparer le parcours, le temps qui s'est déroulé depuis, et de voir que ma prophétie, qui est évidemment facile, et bien effectivement se réalise. C'est-à-dire que le temps passe, mon présent défile.
Maintenant, je voudrais vous demander de fermer les yeux, de visualiser le vide devant vous et de me faire une description.
Eh bien là, je vois. Je vois en fait que ce que je vois à travers mes yeux fermés. Je réfléchis pas. Et donc que je vois toutes ces couleurs qu'on voit quand on a les yeux fermés. Le vide, c'est aussi un peu le non-sens. Je vois plein de couleurs, mais elles n'ont pas de sens. Donc il n'y a rien.
Pouvez-vous m'expliquer ça par rapport au vide et au non-sens?
Ben, tout simplement, il n'y a pas de. Dès le moment où il n'y a pas de sens aux choses, en fait, le concept de vide, comme c'est un concept humain, il est lié à une forme idéalisée du monde, c'est-à-dire qu'il a tendance à diviser, voilà, le plein et le rien, etc. Et sûrement sur une base initialement quasi psychologique, parce que voilà, on s'ennuie, parce que un seau qui était plein est d'un seul coup vide, donc c'est un concept d'absence, mais donc où il y a du signifiant, il y a des choses qui sont liées à des représentations. Donc en fait, d'abord on se retrouve face à des choses pleines ou vides. Et puis ensuite, ou en même temps, on peut décrire de la même façon nos états mentaux. Et donc déjà, on pourrait imaginer qu'on est dans un monde où on dit plein et vide pour un seau, mais quand on parle d'une personne, d'ailleurs on a d'autres mots, mais on ne peut pas utiliser ces termes-là. Dans ce cas-là, on ne ferait pas du tout de correspondance entre un état psychologique. Donc, par exemple, quelque chose est vide de sens, voilà, que le mot vide ne peut pas être un sens figuré de l'inverse de plein. Donc, c'est déjà forcément une représentation, le vide. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est intimement humain. Et c'est parce que c'est humain qu'en fait, il a en fait un sens caché, il est pas, c'est pas une description d'un phénomène à un mot simplement, c'est un état psychologique, comme je disais. Donc ce que je veux dire, c'est que sans sens, quelque part, ça veut dire vide, automatiquement. Parce que par exemple, que le seau soit plein, ça a du sens. C'est qu'on va manger, s'il y a quelque chose à manger dedans. Alors que si on dit qu'il est vide, ça a aussi un autre sens. En fait, c'est que ça a un sens, déjà même à un état peu philosophique, le vide a un sens qui est pleinement lié à des intentions. Donc c'est pour ça qu'en gros, quand il n'y a pas de. Quand il y a le vide, c'est déjà la description que. Enfin, quand on fait cette opposition entre vide et plein, c'est une opposition de sens, en fait.